Oui, on invite les enfants à monter, oui, à suivre mon oncle Robert. Robert qui nous a fait un magnifique souper hier soir avec Jasmine. Merci encore, hein, Robert et Jasmine, là, pour un magnifique souper. Tout le conseil nous a fait un beau souper hier soir là, pour saluer notre départ. Jessica est venue me voir tantôt pour nous dire que vous allez voir, excusez mon doux, vous allez voir dans le bulletin une petite feuille comme ça, dans le bulletin, et on vous a annoncé tantôt que nous avions la conférence qui s'en vient le 2 et 3 octobre, changer vraiment, comment. Les auteurs nous recommandent fortement de lire le livre avant, c'est beaucoup plus efficace, et ça prépare nos cœurs et ça nous aide à mieux comprendre la conférence qui va arriver. Donc, si vous êtes de ceux qui allez lire le livre avant, vous avez juste à suivre le plan de lecture qui est ici et ça va vous assurer que vous allez arriver à la conférence toute prête. D'accord? Eh bien, cette semaine, je pensais à, ça fait deux semaines en réalité, je pense à, vous savez, c'est mon avant-dernier message ici à Longueuil. Après 7 ans, ici depuis 2002 quand nous sommes arrivés, et c'est vraiment pas évident hein, de changer d'église. Pour ceux qui ne savent pas, et vous êtes en visite peut-être ici, le Seigneur nous appelle, Lise et moi, à déménager et aller à Gatineau pour aller servir le Seigneur dans une église, là-bas, une belle église qui est sans pasteur depuis plus de 5 ans. Il y a vraiment une belle équipe pastorale quand même. Ils voulaient avoir quelqu'un d'autre pour compléter l'équipe, et puis ils ont demandé à ce qu'on y aille, et puis le Seigneur a mis ça sur notre cœur. Alors, on part bientôt, on est ici encore pour 3 dimanches, on quitte, le dernier message, je pense que je vais donner, c'est le 12 juillet, dans 2 semaines. Après ça, on part en vacances, puis on se prépare à déménager. On est dans cette période-là, et les gens me demandent, est-ce que vous avez trouvé une maison? Pas encore. Et je vous dis, c'est tout un défi de trouver une maison. On est rendu à notre 300e maison sur Internet qu'on a parcouru. On regarde ça, puis tu connais pas les coins, hein? C'est un coin qu'on connaît pas. Donc, mais quand même, notre choix s'est arrêté sur 11, et on va visiter la région demain pour aller faire traverser les 11 maisons. Ça va être vraiment in and out. Et puis, on apprécie vos prières. On aimerait vous remercier pour tous ceux qui prient pour nous, qui prient pour ce nouveau ministère qui s'ouvre pour nous. On laisse derrière nous vraiment une belle équipe pastorale ici, une belle équipe d'anciens. Encore hier soir, on parlait justement de ça avec Alexandre ce matin, comment on a eu du bon temps hier soir. Vraiment des gens qui aiment Dieu. Et ça va être agréable de voir ce que Dieu va faire dans les prochaines années. Mais les salutations vont se faire dans 2 semaines. Ce matin, j'ai pensé à un passage que j'aimerais regarder avec vous. Et on se prépare, comme vous savez, on se prépare pour partir. On part en voyage. Et c'est un voyage spirituel. On se prépare physiquement avec l'achat d'une maison, mais on se prépare aussi spirituellement avec ce beau défi. Merci. Avec ce beau défi qui est devant nous, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes en voyage. Nous sommes tous en voyage. Notre demeure permanente n'est pas ici. Nous sommes concitoyens des cieux et nous sommes juste des étrangers ici en attendant que le Seigneur revienne nous chercher. Donc, il y a lieu de se préparer. Nous avons besoin de nous préparer physiquement et spirituellement, et tous et chacun d'entre nous, pour ce voyage spirituel comme des pèlerins que nous sommes ici sur terre, pour accomplir cette belle mission que Dieu nous confie à tous et chacun. Vous à Longueuil, nous à Gatineau, nous avons besoin de nous préparer spirituellement. Alors, j'ai pensé à un passage que j'ai étudié dans la dernière année, et qui est parfait pour ce temps de l'année ou alors qu'on se prépare pour partir. Et chacun d'entre nous, je pense qu'on a de quoi aller retirer par cette belle bénédiction qui se trouve dans le livre des Nombres. Et ce matin, on va regarder le livre des Nombres. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur un passage en particulier. Mais juste avant de tomber dans ce passage-là, j'aimerais juste faire un peu un survol des premiers chapitres du livre des Nombres parce que vous allez mieux apprécier et saisir l'importance de cette bénédiction et de cette préparation au voyage, si vous connaissez le contexte, d'accord? C'est le 4e livre de la Bible, le livre des Nombres. Et oui, tu viens... Oui, c'est bon. Merci, David. OK, alors le livre des Nombres, si vous voulez tourner dans le livre des Nombres, c'est le quatrième livre de la Bible. Nombre, juste tourner au premier chapitre, on ne va pas le lire tout de suite. J'aimerais juste brosser un tableau un peu sur le livre des Nombres et vous expliquer c'est quoi le livre des Nombres. Le livre des Nombres est particulier parce qu'il s'inscrit vraiment dans un moment charnière dans l'histoire d'Israël. C'est le quatrième livre de l'Ancien Testament, mais c'est le quatrième livre non seulement à cause de l'ordre qu'il apparaît dans la Bible, mais aussi c'est le quatrième livre qui donne la chronologie de l'histoire de Dieu et surtout de son peuple, le peuple d'Israël. En fin de compte, le livre des Nombres est relativement simple dans le sens qu'il se trouve justement à l'époque où le peuple de Dieu se trouve dans le désert. Le livre des Nombres raconte les 40 ans où le peuple juif a été dans le désert. Le peuple juif a déjà été libéré par Moïse, sous Moïse. Ça fait environ un an. Et ils sont libérés de l'esclavage de l'Égypte, et on connaît l'histoire avec les plaies, et Dieu miraculeusement les délivre et les emmène au désert. Et là, ils sont là, tout près du mont Sinaï. C'est là que Moïse reçoit les commandements dans Exode. Et là, le peuple d'Israël attend. Ils sont juste là. Et ils attendent les ordres de Dieu pour entreprendre le voyage qui les mèneront, le voyage qui les mènera à la terre promise qui est Canaan. Alors, ils sont là, ils attendent les directives de Dieu. Et juste avant d'amorcer le voyage, ils seront là et Dieu les prépare avant le départ pour aller faire le voyage et se rendre dans la terre promise. C'est un beau parallèle avec chacun d'entre nous, alors que nous sommes ici et nous sommes en voyage vers la terre promise ultime quand le Seigneur reviendra avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, où nous allons entrer dans cette terre qui sera parfaite. Et c'est un beau parallèle pour nous. Et Dieu va préparer son peuple avant le départ, avant de partir, d'accord? Dans la première partie du livre des Nombres. Ensuite, il va les conduire pour tranquillement les rendre à Canaan, et ça va prendre 40 ans. Le livre des Nombres s'appelle Nombre, simplement parce qu'il y a beaucoup de chiffres à l'intérieur du livre. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je suis certain d'une chose, ce n'est certainement pas dans vos livres préférés, le livre des Nombres. Soyons honnêtes, c'est pas dans les top 10, il y a beaucoup de chiffres, de recensements. Et tout de suite, on en parlait hier soir au souper, j'en parlais justement avec Danny, et tout de suite, la première affaire qui est sortie, on a parlé de recensement. Tout de suite, le livre des Nombres évoque cette idée de chiffre et de calcul et de recensement, de dénombrement. Mais en réalité, et on va voir tantôt, il y a une raison pour ça. Mais le titre du livre, le livre des Nombres, est tiré plutôt du grec et non de l'hébreu. C'est dans la version grecque de l'Ancien Testament, qui s'appelle la Septante, que le titre est donné, le livre des Nombres. Mais chez les Juifs ne se servent pas de ce titre, ils donnent plutôt le titre « dans le désert », qui est en réalité le cinquième mot du premier verset, « dans le désert ». Parce qu'effectivement, ça raconte le contexte des événements du livre des Nombres, à savoir que c'est ce voyage pendant les 40 ans dans le désert. Le livre est assez remarquable dans sa façon qu'il est bâti. C'est Moïse l'écrivain, la façon qu'il a construit ce livre. Et quand tu parcours le livre, il se divise très bizarrement. D'ailleurs, la structure du livre est si difficile à faire qu'un dénommé Olson a lu 46 commentaires sur le livre des Nombres et arrive avec 24 plans possibles du livre. Parce que c'est pas écrit comme un historien. Moïse n'a pas écrit comme un historien. Donc, il ne suit pas nécessairement une suite chronologique des événements. Par exemple, les 10 premiers chapitres, imaginez, il y a 36 chapitres dans le livre des Nombres, presque le tiers, presque, 10 premiers chapitres parlent de 19 jours. La seconde section du livre, chapitre 10 à 14, pas beaucoup ça, couvre 10 jours. La troisième section du livre, chapitre 15 à 19, couvre 37 ans. Imaginez, on passe plus de temps, plus de chapitres sur 19 jours que sur 37 ans. Et dans la dernière section, les chapitres 20 à 36, ça couvre une période de 10 mois. Alors, c'est bizarre. Admettons-le, c'est vraiment bizarre. Si nous, on avait écrit ça comme historien, il me semble, tu as 40 ans, 4 sections, 10 ans chacune. Hein? Il me semble que ça serait bien plus simple. Mais voyez-vous, Moïse n'écrit pas comme un écrivain. Il veut nous enseigner quelque chose. Il va choisir des événements, des étapes à l'intérieur de ce voyage, 40 événements ou 40 étapes, et il va s'en servir pour nous enseigner quelque chose sur Dieu. Il n'écrit pas comme un historien. Le livre a une structure plutôt pédagogique pour nous enseigner quelque chose. Moïse écrit comme un berger qui est venu parler de son pasteur, le grand pasteur qui est Dieu. Alors, le livre est construit de façon à nous faire aimer Dieu davantage. Il veut nous aider à mieux comprendre et connaître Dieu, à nous enseigner comment marcher plus intimement avec Dieu. Donc, Moïse a une approche différente. Certains vont diviser le livre en 3 phases du voyage dans le désert. Les chapitres 1 jusqu'au chapitre 10, verset 10, ils sont là dans le désert du Sinaï, puis ils attendent le départ. C'est les préparations du voyage. Les 10 premiers chapitres préparent le peuple d'Israël à amorcer le voyage. Alors, ils sont dans le désert du Sinaï. La 2e section, ce serait le chapitre 11 jusqu'au chapitre 20, verset 13, où là, ils vont voyager et ils sont dans la région de Kadesh. Et la 3e partie du livre, on pourrait diviser les chapitres 14 jusqu'à la fin, chapitre 36 à 13, où c'est le voyage de Kadesh jusqu'aux plaines de Moab, où ils sont tout près de Canaan, près d'entrée. Alors, quel est le message du livre des Nombres? Les Nombres illustrent l'un des thèmes principaux de la Bible, le péché du peuple de Dieu dans le désert. Combien de fois le peuple s'est rebellé, critiqué, a méprisé Moïse, l'homme de Dieu, et s'est rebellé contre Dieu. Et on aurait pu voir facilement la fin de l'histoire de la rédemption du peuple d'Israël et la destruction du peuple de Dieu. Facile. Ils se sont rebellés tant de fois. Il y a eu tellement de péchés. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Et c'est ce qui ressort à travers ces 40 ans. L'acteur principal du livre des Nombres est nul autre que Dieu. Et malgré des provocations extrêmes, Dieu reste fidèle. Il maintient son alliance avec Israël. Dieu va guider son peuple à travers le désert. Il va prendre soin de lui. Et tout ça par amour. Ce qui se passe dans ce livre est en quelque sorte un prélude de ce qui va se passer avec la croix, avec Jésus-Christ. Alors que les gens vont rejeter Jésus-Christ, vont s'opposer à lui, Dieu envoie son Fils à être sacrifié à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Nous voulons donc nous arrêter à la préparation du voyage dans le désert. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner au 1er chapitre du livre des Nombres. Et on va lire juste quelques versets. Avant de lire les versets, dans les 10 premiers chapitres, comme je vous ai dit, ils sont là, ils sont en préparation. Et ce que l'on voit au chapitre 1, au chapitre 4, il y a le dénombrement. Au chapitre 5 et 6, il y a la purification du camp. Dieu va sanctifier le peuple avant de faire le voyage. Ils ont besoin de se consacrer à Dieu, se purifier. Au chapitre 7, il va y avoir des offrandes à faire à l'autel. Au chapitre 8, la consécration des prêtres et des lévites. Au chapitre 9, ce sera la seconde Pâque, qui est en réalité la première Pâque dans le désert. Et au chapitre 10, les trompettes d'argent. Il va donner le coup d'envoi au départ. Maintenant, les 10 premiers chapitres sont clés parce qu'elles préparent le voyage. Et le chapitre 1 est très important parce qu'il donne le ton à tout le reste du livre. Alors, j'aimerais lire les 4 premiers versets avec vous, si vous voulez bien. Tournez dans Nombre, si vous n'êtes pas encore déjà là. Nombre, chapitre 1. Versets 1 à 4. Vous êtes là, Nombre 1 à 4. Alors, ils sont dans le désert, d'accord? Vous vous rappelez là, de la situation, ils sont dans le désert, ils attendent les directives de Dieu et Dieu parle. Et voici ce qu'il dit. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation. Le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les hommes. » Regardez ce petit détail, verset 3. « Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. » Alors, on sait qu'il y a 12 tribus et Dieu va donner le nom de chaque responsable de chaque tribu qui va aller faire le calcul dans chaque tribu. Verset 4, « Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. » Donc, voici ce qui se passe, c'est un recensement, un calcul. Tu vas aller compter tout le monde dans le désert. Et voici, tu vas prendre un chef ou un représentant par tribu qui va tourner, va aller faire des calculs, puis tu vas revenir avec le chef, avec le recensement, le nombre total. Eh bien, il est évident, en regardant le recensement du premier chapitre, la première chose qu'on découvre, c'est que Dieu est en train de préparer une armée. Regardez l'expression ici, 20 ans et au-dessus, ceux qui sont en mesure de porter des armes. Pourquoi parler d'armes? Tout d'un coup, ils sont dans le désert. Va compter tous les jeunes hommes de 20 ans et au-dessus. Pas les enfants, pas les femmes, pas les lévites, pas les vieillards. Les jeunes hommes, seulement les jeunes hommes de 20 ans et au-dessus capables de porter des armes. Il est évident que le recensement sert, premièrement, à préparer. Dieu prépare son armée. Parce que nous, n'oublions pas que Dieu les appelle à amorcer ce voyage et le voyage sera difficile. Mais non seulement ça, lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise, il y a des gens qui habitent là, il y aura des guerres pour prendre possession de la terre promise. Donc Dieu est en train, comme un grand général, il est en train de préparer son armée, il l'a dans le désert. Ils font le décompte, ils calculent, et on a la réponse au verset 46. C'est le résultat de ce dénombrement, après avoir fait tout le calcul. Verset 46, il est dit, « Tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 500 personnes. » Donc, on parle, c'est assez gros, hein? On parle ici de 603 550, qui? Hommes de 20 ans et au-dessus. On ne parle pas des femmes, on ne parle pas des enfants, ni des vieillards, d'accord? 603 550 jeunes hommes de 20 ans et au-dessus capables de porter les armes. Maintenant, pourquoi le recensement? Premièrement, Dieu est en train de préparer son armée. Deuxièmement, Dieu est en train de nous montrer par ce recensement comment il est fidèle. On ne voit pas ça tout de suite en regardant ces chiffres. Quand on lit le livre des Nombres, vous êtes en train de calculer, vous êtes en train de dire, ah bon, OK, il y a 603 550 000 hommes. Non, non, attendez un peu, là. On va reculer en arrière, là. Un jour, Dieu avait dit à Abraham, Abraham n'était pas capable d'avoir des enfants, là. Et Abraham vieillissait, puis il a dit à Dieu, « Dieu, moi, je j'ai pas d'enfant, j'ai pas personne à qui léguer mon héritage et tout ça. » Et là, Dieu a fait cette promesse à Abraham dans Genèse 15, verset 5. J'aimerais vous le lire. J'aimerais vous le lire. La nation d'Israël n'existait pas, les Juifs n'existaient pas. Là. Et Dieu a dit à Abraham, a fait la promesse. Abraham, qui était âgé, pas d'enfant. Voici ce que Dieu dit. Après l'avoir conduit dehors, alors Dieu prend Abraham, sort dehors de sa tente, viens voir, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Il a eu la foi, Dieu lui a imputé justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Ur, en chaldée pour te donner en possession ce pays. Dieu a promis deux choses, il y a plusieurs éléments à la promesse, ici, mais on va regarder juste deux. Dieu avait dit, moi je te promets qu'un jour toute une nation juive va sortir de toi. Tu peux pas avoir d'enfant, je peux te faire cette promesse. Je te fais cette promesse que de toi va sortir une nation entière. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, premièrement, quelques années plus tôt, on voit qu'il y a 70 personnes qui entrent en Égypte. Avec Joseph, ses frères, tout ça, 70 personnes. Donc, ça a commencé avec Abraham, qui n'était pas capable d'avoir les enfants, ça a monté à 70. Et 400 ans plus tard, peu de choses près, on voit maintenant 603 550 personnes, jeunes hommes, à part des enfants, des vieillards et des femmes. Ça veut dire qu'on compte à peu près 3,5 millions de personnes dans le désert. Ça a commencé quand? Ça a commencé avec Abraham, bien des années avant, qu'il n'était pas capable d'avoir les enfants. Et Dieu avait promis, sors dehors, regarde les étoiles, tu vois, un jour, ça va être ta famille. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par ce recensement-là? Il est en train de nous dire que quand je te dis quelque chose, tu peux compter sur moi. Amen. Quand je te fais une promesse, tu peux être sûr que je vais livrer la marchandise. Et Dieu va même promettre la terre. Et il est en train de les préparer quelques centaines d'années plus tard pour les emmener dans cette nouvelle terre. Alors, le recensement des enfants de Dieu nous a... Dieu prépare son armée. Deuxièmement, ça nous montre que Dieu est fidèle à accomplir ses promesses. Et troisièmement, ça nous enseigne que Dieu prend soin de nous autres. Imaginez, 3,5 millions de personnes dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Il n'y a pas de dépanneur, rien, là. Pas de magasin, là. Pas de Costco, là. Ça prendrait beaucoup de Costco pour nourrir toute cette gang-là. 3,5 millions de personnes. Et ils vont être dans le désert pendant plus de 40 ans. Et à chaque jour, Dieu leur donne l'eau qu'il faut et la nourriture qu'il faut pour les soutenir puis les emmener à travers les 40 ans. Laissez-moi vous dire une affaire. Dieu est pas mal puissant. Vrai? On a posé la question à l'armée, habituée de faire des calculs, de savoir combien ça prend de nourriture pour nourrir des soldats, des milliers de soldats et tout ça. On leur a posé la question pour leur demander combien ça prend de nourriture. On a commencé à faire un paquet de calculs. Et là, mis à part la nourriture, on va y revenir, mis à part l'eau, on va y revenir, juste de traverser à travers la mer Rouge. Pensez-y, là. Dieu, ils sont tout le peuple d'Israël, 3 quelques millions de personnes sont sur le bord de l'eau, ils doivent traverser l'autre bord pour se rendre aux côtés. Juste traverser la mer Rouge à sec. Dieu, on voit que Dieu a fait un miracle, Dieu a mis son doigt, séparé les eaux pour faire traverser. Et la Bible nous donne un détail vraiment intéressant. Elle nous dit, la Bible nous dit que c'est dans une seule nuit, ces 3 quelques millions de personnes ont réussi à traverser. Maintenant, les gens ont fait le calcul et ils ont dit, waouh! 3 quelques millions en une nuit. Imaginez, juste vous donner un peu le ce que ça peut représenter. Si vous étiez 2 personnes en ligne, vous êtes une file d'attente, vous attendez à la banque, vous êtes 2, là. OK? Vous êtes 2, une file d'attente pour traverser la mer Rouge. Mettons là que la mer avait été séparée juste quelques pieds, assez pour que 2 personnes puissent rentrer à la fois. D'accord? Si c'était le cas, avec 3 millions de personnes, ça prendrait 35 jours et nuits, sans arrêt, pour marcher. Puis la file d'attente aurait 1300 kilomètres de long. Des fois, on se sent comme ça, hein, quand on attend en file d'attente. On a l'impression que c'est bien long. Il fallait que ça arrive en une nuit. L'ennemi s'en venait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Plus large. Combien plus large? Comment tu fais plus large, assez large, pour faire passer en une seule nuit 3,5 millions de personnes? 5 kilomètres et 5 000 personnes côte à côte. Ce ne sont pas 2, ce sont 5 000 personnes, 5 kilomètres de large, et pendant une nuit, ça marche. Hey, peux-tu juste imaginer, là? Tu es en train de marcher, puis c'est immense. Il y a certains endroits à 200 quelques pieds de profond. Ça fait deux, et la Bible dit qu'il y a 2 grands murs droits, puis tu as 5 000 personnes qui marchent côte à côte. 5 kilomètres de large, passe toute la nuit, tu marches puis tu traverses ça. Phénoménal. Mais combien de nourriture ça prend pour nourrir tout ce beau monde? Selon les statistiques de l'armée américaine, ça prendrait, Moïse avait besoin de 1500 tonnes de nourriture à chaque jour. 1500 tonnes de nourriture. Allez, je vous dis qu'on mange, hein? 1500 tonnes de nourriture à chaque jour. Pour vous donner une image visuelle de ce que ça peut représenter, c'est l'équivalent de 2 trains complets. Si tu mets toute ta marchandise et toute cette nourriture-là, là, puis tu veux les emmener toute cette bouffe-là à quelque part, à Fermont, disons, tu embarques tout ça, 1500 tonnes de nourriture, c'est 2 trains complets de transport de marchandises, soit l'équivalent de 3,2 kilomètres de long chacun. À chaque jour. Pendant 40 ans. Combien d'eau? 11 millions de gallons d'eau à tous les jours. C'est incroyable, pendant 40 ans. Alors, encore une fois, si on met cette eau dans un réservoir, dans un transporteur de train, ça te prendrait un train de 3000 kilomètres de long, juste pour transporter cette eau-là. Et Dieu a fait ça, a pourvu cette eau-là pendant 40 ans, 11 millions de gallons d'eau à tous les jours. Là, on peut se poser la question, le Dieu qui a fourni 11 millions de gallons d'eau à chaque jour pendant 40 ans pour 3 millions et demi de personnes, le Dieu qui a fourni 1500 tonnes de nourriture à chaque jour pendant 40 ans, peut certainement prendre soin de toi et moi. Amen. C'est ma petite, la petite part d'eau. Alors, le recensement nous enseigne que Dieu prépare son armée, accomplit ses promesses, qu'il prend soin de nous. Voilà ce qu'il nous enseigne le premier chapitre. Chapitre 2, c'est l'organisation de son armée. Maintenant, on sait combien il y a de personnes dans chaque camp. Dieu organise son armée en fonction du dénombrement. Et les tribus, les 12 tribus, sont arrangées vraiment comme une armée qui marche pour la guerre. Moïse va servir de terme militaire plus de 20 fois. On a l'expression qui revient avec ses corps d'armée. Et Moïse veut que l'on comprenne que le peuple de Dieu est monté comme une armée qui marche vers la terre promise. Ça, c'est bien clair. Dès l'ouverture du livre, on a ce rappel solennel que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans une guerre spirituelle. Alors, tu vas voir l'organisation de l'armée de Dieu. Alors, Dieu va diviser 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus en avant, 3 tribus à l'ouest. C'est arrangé comme ça. En plein centre, il y a le tabernacle, la tente de la rencontre, où Dieu rencontre Moïse. Et c'est au centre, il va y avoir à peu près 1 kilomètre qui sépare la tente d'avec les gens. Et ça, ça donne à penser à la sainteté, que tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Dieu est au centre, Dieu est dans la tente, dans le tabernacle. Et tu vas avoir 3 fils, la famille des Lévites, qui vont être autour de la tente, mais qui seront aussi dispersés à travers les tribus pour qu'ils aient un ministère auprès de tout le monde. Maintenant, tu regardes ça comme ça, et là, tu vois l'organisation du camp. Mais maintenant, quand ça commence à voyager, parce que tantôt, ça va commencer à voyager vers la terre promise, qu'est-ce que ça a de l'air quand on commence à voyager? Ils ne voyageront pas comme ça. Alors, la prochaine diapo vous montre ce que ça a de l'air quand l'armée va avancer. D'accord? L'organisation des troupes israélites de Dieu. Et voilà comment ça va avancer. Tu vas avoir la première tribu, Juda, qui est là, puis ça suit 6 tribus en avant. Tu vas la tente de la rencontre des Lévites, parce que les Lévites recevront comme tâche chacun, chaque enfant se recevra la tâche de démonter le tabernacle, et chacun transportera quelques-uns des pieux, d'autres les toiles et tout ça. Donc, on s'en va, et on va continuer jusqu'à la fin, la 12e tribu. D'accord? Et ça, c'est l'organisation du camp. C'est une formation qu'on appelle quadrangulaire, formation qui a 4 côtés. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les Juifs étaient habitués de voir cette organisation militaire-là. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de l'Égypte. Et l'Égypte, les archéologues ont découvert sous Ramsès II que les Égyptiens organisaient, lorsqu'ils s'en allaient en guerre, exactement de la même façon que ça. Par exemple, Ramsès lui-même était au centre, c'était le roi. Alors le roi était au centre, et il avait toute son armée autour, les soldats, et il s'en allait en guerre exactement comme ça. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici à ses enfants? Il est en train de dire, rappelez-vous, là, il est juste habitué de voir ça. Est-ce que Dieu est en train de dire aux enfants de Dieu, c'est moi qui est le roi, puis je suis au centre? Moi, je suis votre Ramsès, mais on sait bien que c'est Dieu. Dieu, l'Éternel. Dieu lui-même est le roi, et c'est lui qui est au centre de la bataille, c'est lui qui est au centre de la guerre. Il va emmener ses troupes vers la terre promise. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'ils vont être vainqueurs, n'est-ce pas? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous autres? Alors, Dieu tient à être là en plein milieu de son peuple, et c'est lui qui est le roi. Il va mener ses troupes à la victoire. En passant, nous n'aurons pas le temps de regarder ça ce matin, mais on va voir à nouveau cette formation dans la Nouvelle Jérusalem qui va descendre dans l'Apocalypse 21. Jean nous fait remarquer que cette Nouvelle Jérusalem, à la fin des temps, qui va descendre, a de quoi de différent. Elle n'a pas de temple au centre. Apocalypse 21, 22 dit ceci, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Voyez-vous, un jour, nous verrons cette formation à nouveau, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de tente qui cache la gloire de Dieu. Pas de lieu très saint pour cacher cette gloire. Le Seigneur Tout-Puissant et l'agneau seront au milieu de nous et nous les verrons dans toute leur gloire. C'est merveilleux, hein? Et là, on saura que la guerre est finie. La guerre spirituelle. Alors, chapitre 1, on a le recensement. Chapitre 2, l'organisation de l'armée. Chapitre 3 et 4, c'est le dénombrement des Lévites, des prêtres, et leur charge, leur mission, leur ministère. Chapitre 5, la sainteté du peuple de Dieu. Chapitre 6, on a le vœu de Naziréa, un vœu qui nous semble étrange jusqu'à ce qu'on comprenne que ce vœu, dans le fond, est une bénédiction de Dieu. Voyez-vous, les charges pastorales, les charges du service du temple étaient remises exclusivement à une famille, les Lévites, la famille de Lévi. Mais ce vœu de Naziréa va nous parler de la grâce de Dieu parce qu'elle permet aux hommes et aux femmes, non prêtres, non lévites, à tout moment, qu'ils le veulent, de servir volontairement le Seigneur. Vous voyez, ça l'ouvre la porte à Monsieur Tout-le-Monde, à Madame Tout-le-Monde, de venir servir le Seigneur, au-delà de la tribu de Lévi. Et là, on va arriver, et tout après ça, il y a des tests d'adultère et tout ça qu'on n'aura pas le temps de voir ce matin, qui est vraiment intéressant. Et là, on arrive avec un passage magnifique qui est justement la bénédiction. Tu t'ennuies de moi, David? Ça n'arrête pas. Qu'est-ce que je fais? C'est moi là, qui le colle encore, non? Tu vas changer de micro? Ah, oh, pendant que tu travailles, c'est correct, je vais continuer. Okay. Bon, ça marche. Cache-toi en arrière de moi. Bon, t'es rendu où, là? Nombre 6. Tournez dans Nombre 6. D'accord? Et là, on a la bénédiction de Dieu sur Israël. Non, rappelez-vous où nous sommes rendus, là. Ils sont encore dans les préparatifs. On est encore dans les 10 premiers chapitres. Les Juifs ne sont pas partis en voyage encore. Nous sommes encore rendus dans les préparatifs pour le voyage qui sera amorcé pour aller jusqu'en terre promise. Et Dieu a organisé son armée. Il a séparé les troupes. Ses prêtres, ils se sont consacrés. Les prêtres sont là. Tout est prêt. Ils ont fait des sacrifices. Ils sont sanctifiés. Tout est prêt. Maintenant, le voyage sera dangereux, n'est-ce pas? Non, vas-y, David. Le voyage sera difficile. Et oui, le message est difficile. Oui, ça rajoute du pep, hein? Approche-toi. Allô?
1, 2, 3. Lui, il ne me suivra pas, par exemple. C'est vrai, je ne pourrais pas me promener trop tôt. Hein. Je vais rester tranquille. C'est difficile de me demander ça. Là. Un gars nerveux. Là. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? J'enlève ça? Plus bon? Ah, je vais le fermer, tiens. Ouais. OK.
C'est un bon ministère. C'est tout arrangé.
Les gens commencent à se poser la sérieuse question, David. Là. Il va falloir arrêter de sortir comme ça, là, ensemble. Là,
je fais ça avant. Je fais tout le temps ça.
Ben oui, Dave. Merci beaucoup à toute l'équipe. Hein. C'est pas facile pour eux de nous entendre là, comme ça le matin à faire des bruits. Ils sont nerveux, ces gars-là. Heureusement, ils sont là. Et regarde même le cellulaire qui commence. Mon ami. Oui, c'est-tu pour moi? Dites-leur que je suis occupé. Tantôt. Aïe, 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 ça n'a pas de bon sens. Bon, je m'en vais dans 2 semaines. Hein, fait que je peux faire des gaffes. Que... Bon, OK, chapitre 6. Chapitre 6, on est toujours dans le livre des Nombres. Et si vous décidez de revenir avec nous autres, nous rejoindre, on est au chapitre 6. Et là, juste avant d'amorcer le voyage, avant de faire le voyage, Dieu va les bénir. Et regardez bien la bénédiction qu'il va leur faire. Chapitre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, en passant, remarquez les détails, s'il y a des détails, il ne faut pas manquer, c'est Dieu qui prend les devants. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Bénissez-les en disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. On le voit pas en français, là, mais en hébreu, dans le texte original. C'est vraiment bien construit. C'est un poème. Et Élie, tu vas aimer ça. Toi qui aimes les lettres. Versets 24, versets 25 et versets 26, il y a une façon très habile de construire le poème. Verset 24, il va y avoir trois mots. Verset 25, cinq mots. Verset 26, sept mots. Alors, la bénédiction, les bénédictions prennent de l'expansion, s'élargissent, s'étendent à mesure que l'on passe à travers le poème. En hébreu, par exemple, on va voir verset 24, 12 syllabes. Verset 25, 14 syllabes. Verset 26, 16 syllabes. Encore une fois, verset 24, 15 consonnes. Verset 25, 20 consonnes. Verset 26, 25 consonnes. Et remarquez le contenu. Il ne s'agit pas d'une pétition, pas de requête ici. Pas de supplication. Il s'agit uniquement d'une bénédiction. C'est une déclaration de la faveur de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu vas aller voir Aaron et Aaron va bénir mon peuple et je veux qu'Aaron dise à mon peuple que je vais les bénir. Voyez? Et bénir veut dire faire du bien. Je vais leur faire du bien. C'est une promesse. Alors Dieu convoque, fait convoquer toute l'assemblée, les tribus, là, il les emmène et Aaron va les bénir de cette façon-là. Et c'est Dieu qui prend les devants. On aurait pu s'attendre à ce que Aaron lui-même commence à prier, invoquer, implorer Dieu de son aide alors qu'ils vont amorcer un voyage dangereux. Non, non, c'est Dieu lui-même qui prend les devants pour les bénir. Dieu dit « Bénissez mon peuple ». C'est bon, hein? Bénissez mon peuple. Je veux que mon peuple soit béni. Bénissez mon peuple. La bénédiction de Dieu ici, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est qu'elle nous assure la victoire. Elle nous assure la victoire dans nos combats spirituels. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ça que le peuple de Dieu a besoin de savoir. Quel réconfort de savoir qu'avant de livrer ce combat spirituel qu'on a besoin de livrer, nous, comme enfants de Dieu, contre les désirs de la chair, les tentations, tout ce qui se pointe à l'horizon, ces défis, ces épreuves. Dieu te bénit et te fait cette promesse qu'il va te bénir à travers ce voyage et ce combat spirituel. Premièrement, Dieu, ce qu'on découvre à travers cette bénédiction, c'est que Dieu est la seule source de bénédiction qui vaille la peine d'avoir, qui soit indispensable. Ce que Dieu donne vaut la peine. Ce que Dieu donne, c'est ce que tu as besoin. Parfois, Dieu ne te donnera pas, c'est parce que tu n'en as pas vraiment besoin. Dieu te donne l'essentiel. Il est la source de la bénédiction qui est indispensable. Ce que Dieu te donne, c'est vraiment ce dont tu as vraiment besoin. On voit trois fois que l'Éternel te bénisse, versets 24, 25, 26, et même verset 27, « Ils mettront mon nom et je les bénirai. » On répète plus de sept fois que c'est Dieu qui bénisse, qui bénit, et on réalise qu'il est le seul à pouvoir bénir son peuple. Il est le seul à pouvoir bénir où ça compte. Et si les enfants d'Israël avaient seulement compris ça au départ, au début du voyage, s'ils avaient cru à cette promesse de Dieu, cru à la bénédiction de Dieu, Dieu avait promis qu'il bénirait. S'ils avaient seulement eu la foi et croire, le voyage aurait été différent. Le livre des Nombres aurait été différent. Ça aurait pas pris 40 ans de faire ce voyage. Mais ils ont douté. Et c'est un appel solennel pour chacun d'entre nous de faire attention, d'agir avec foi et de croire que la bénédiction, la seule source de bénédiction se trouve vraiment en Dieu. Que des fois, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Mais c'est pour ton bien. Dieu sait ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas de besoin. La bénédiction de Dieu nous assure la victoire dans nos combats spirituels, car quand Dieu bénit, personne ne peut enlever sa bénédiction. Deuxièmement, cette bénédiction est corporative et personnelle. Elle s'adresse à toute la nation, mais en même temps, ça dit que l'Éternel te bénisse. Alors, c'est toi. Et après tout, quand on regarde dans le désert, Dieu a béni chaque personne. Chaque personne a eu la nourriture à chaque jour. Chaque personne, les gens ont eu l'eau. C'était pas juste Moïse et une gang d'élites qui ont eu la bénédiction de Dieu. Non, Dieu les a gardés, les protégés, chacun d'entre eux. Alors, c'est comme ça la bénédiction de Dieu. Dieu, c'est personnel, c'est à toi, c'est à moi. Et en même temps, c'est corporativement, c'est toute l'Église. Troisièmement, la bénédiction de Dieu nous assure son amour et sa protection. Voici un aspect du caractère de Dieu. Dieu donne et protège. Ça parle de sécurité ici à cause du voyage qui sera difficile. Ils sont dans le désert. Mais verset 24, Dieu dit, l'Éternel te garde. Ça parle de sécurité. Et c'est réconfortant pour nous de savoir qu'au cours de notre voyage dans ce monde, alors qu'on va devoir affronter l'ennemi, alors qu'on va devoir faire face à des combats spirituels qui seront difficiles, parfois des tentations, Dieu te garde. Dieu promet de nous garder. Dieu dit, je te garde. La bénédiction de Dieu comprend sa bonté aussi, son pardon. Verset 25, ça dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Verset 25 dit, une façon de le traduire, ce serait que le Seigneur vous regarde avec bonté. Dans le fond, le Seigneur est en train de promettre, je vous regarde et je vais être bon avec vous. Je suis bon et je vais être bon avec vous. Et en même temps, je veux vous sachiez que je suis un Dieu gracieux, un Dieu qui pardonne. Je suis un Dieu miséricordieux. C'est intéressant que Dieu a insisté que ce soit Aaron qui prononce cette bénédiction-là, alors qu'Aaron, il y a quelques semaines avant, avait fait quoi? C'est Aaron, hein, n'est-ce pas? Et tout le peuple. Tout le peuple est allé voir Aaron, puis a demandé à Aaron de faire un veau d'or. Et Aaron lui-même a pris des bijoux d'or et tout ça, puis a construit un veau d'or. Et il était le responsable. Il n'avait rien dit pour stopper la foule. Et Dieu dit, je veux que ce soit Aaron qui prononce cette bénédiction de grâce. En l'autre mot, Dieu est en train de dire, si jamais il y a des gens qui doutent dans la foule, que je suis un Dieu qui pardonne, vous avez juste à regarder Aaron. Il est l'exemple parfait de ma grâce. Cinquièmement, la bénédiction de Dieu comprend son soutien, sa générosité. L'idée, c'est que l'Éternel tourne ou lève sa face vers toi et il te donne la paix. Que l'Éternel, que Dieu lève sa face et te regarde. Tu sais comment c'est frustrant? Tu es en train de parler à quelqu'un puis tu es en train de lire son journal. Tu n'as pas l'attention d'une personne. Moi, ma femme, des fois, elle vient me voir puis elle vient me parler puis c'est quelque chose d'important puis elle est en train de me dire quelque chose. Moi, je suis là, je suis dans mon livre. C'est frustrant, ça, hein? Ça communique quelque chose. Et Dieu est en train de dire, non, non, moi, je vais lever ma face et je vais te regarder vers toi. Tu as toute mon attention. Je suis près de toi, je t'écoute, je te regarde, je suis là, je suis avec toi. D'accord? C'est ça que cette bénédiction-là, elle nous garantit cette présence avec Dieu, cette attention de Dieu. Juste avant de parler à ses disciples pour aller prier dans la nuit de son arrestation, Jésus dit à ses disciples, dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des bénédictions, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voyez-vous, voici Jésus qui va connaître exactement l'opposé de la bénédiction d'Aaron. Juste dans quelques heures, au lieu de recevoir la bénédiction de Dieu, il fera l'objet de la colère de Dieu. Au lieu d'être gardé par le Seigneur, Dieu laissera toutes les forces du mal se déchaîner sur lui. Au lieu de voir Dieu se réjouir en lui, Dieu détournera sa face de lui. Au lieu de connaître la grâce et le pardon de Dieu, il recevra la peine, la sentence de tous nos péchés. Au lieu d'avoir les yeux de Dieu sur lui, il criera, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et au lieu de connaître la plénitude de la bénédiction de Dieu, il sera poussé dans les ténèbres où il n'y a point de paix. En agissant ainsi à la croix, Jésus garantit la plénitude de notre bénédiction. Voyez-vous? Mais pour lui, il renoncera à cette bénédiction pour nous. La bénédiction ne s'arrête pas là, ça continue. La bénédiction de Dieu démontre que nous lui appartenons. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui suit, verset 27, qui ça dit, « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants de Dieu et je les bénirai. » Dieu dit à Aaron de mettre son nom, le nom de Dieu, sur son peuple. Maintenant, Dieu demande à Aaron, mets mon nom sur mon peuple avec ma bénédiction. La façon que Dieu mettra son nom sur son peuple, c'est en les bénissant. Ce n'est pas en écrivant son nom, ce n'est pas avec un sceau, ce n'est pas en les marquant, c'est carrément en les bénissant. En d'autres mots, les autres, les incroyants, les gens des nations sauront que vous m'appartenez, que vous êtes à moi par les bénédictions et par la façon que je vais vous bénir. Et effectivement, quand tu regardes l'histoire d'Israël, combien de fois les autres nations réalisaient que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu en voyant les bénédictions que les enfants d'Israël recevaient par ce même Dieu-là. Vous savez, un jour, nous entrerons dans la présence de Dieu et les inconvertis, les incroyants, les gens qui auront refusé l'Évangile verront à ce jour-là que nous, tout ce temps-là, nous avons été bénis, nous appartenions à Dieu lui-même. À quelque part, ça me rend triste parce qu'il y a des gens à qui j'ai partagé l'Évangile qui saura un jour que tout ce temps-là, le message que je leur donnais était vrai. Mais ils ne pourront pas en jouir, ils n'auront pas ces bénédictions-là dans l'éternité. On peut donc prendre courage, car la route sera longue, le voyage sera plein de défis, la lutte difficile. Mais sachez bien que Dieu nous assure la victoire, car c'est lui qui bénit, sa bénédiction nous concerne, elle s'inspire de son amour, de sa grâce, et sa bénédiction est parfaite. Et moi, j'aimerais ça faire ça avec vous ce matin. J'aimerais ça que vous puissiez tous vous lever. Et comme Aaron... Aaron, qui était un pécheur, Aaron qui a été pardonné par Dieu, était celui qui devait bénir le peuple de Dieu. Et comme moi, pécheur, pardonné par grâce, j'aimerais ce matin vous bénir. D'accord? Voici la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi. Qu'il te donne la paix. Prions, Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, la seule bénédiction qui compte, c'est celle qui vient de toi. Il n'y a rien dans ce monde, aucun plaisir, aucun loisir ne réussit même à la cheville des bénédictions que toi tu offres. Le bonheur se trouve en toi, Seigneur. Oh, je prie pour cette assemblée. Je prie pour ceux, Seigneur, qui ont besoin de prendre une décision ce matin. Peut-être des choses à abandonner. Pour se consacrer totalement à toi, pour que ce voyage soit fait avec la puissance du Saint-Esprit. Peut-être des baby boomers qui sont ici ce matin. Vous avez servi le Seigneur pendant des années. Vous connaissez la Bible plus que nous. Vous avez passé des années à servir, à vous engager. Vous connaissez les Écritures. Vous avez le plus d'expérience que chacun d'entre nous. Mais au fil des années, vous vous êtes relâché. Et là, vous êtes un peu plus en repos. D'autres baby boomers te servent et nous bénissons Dieu pour le service que vous rendez. Mais Seigneur, il y a d'autres baby boomers qui ont besoin de se reconsacrer à toi, Seigneur, et nous te prions pour eux, qu'ils se relèvent. Il n'y a pas de retraite avec toi, Seigneur. Nous voulons te servir jusqu'à la fin de nos jours, parce que le voyage n'est pas terminé, le combat n'est pas fini. Nous ne sommes pas encore rendus à cette terre que tu as promis. Il y a peut-être des jeunes, Seigneur, qui se préparent à poser des gestes qui te déplaisent, Seigneur. Peut-être sortir avec des non-chrétiennes ou des non-chrétiens parce qu'ils sont tannés d'être seuls ou célibataires. Mais Seigneur, on te prie ce matin pour ces jeunes. Que ces jeunes se consacrent à toi, Seigneur, qu'ils prennent la décision ce matin de refuser de suivre le courant de ce monde, de se tenir droite comme un soldat qui sert son roi. Je te prie, Seigneur, pour la jeunesse, que tu puisses les garder, les bénir, faire luire ta face sur eux. Seigneur, nous avons tous besoin de cette bénédiction et tu nous la donnes si on marche avec foi. Alors, Seigneur, on décide ce matin de marcher avec foi, de croire que tu nous donneras les victoires au moment où nous en aurons besoin. Et quand la lutte sera difficile, quand on sera tout prêt de tomber, céder, Seigneur, nous savons, nous nous rappelons cette promesse, je te garde. Alors, Seigneur, nous partons ce matin, nous quittons ce lieu comme des soldats tout prêts, bien organisés. Nous entrons dans ce champ missionnaire où tu nous as blessés, avec cette assurance que tu nous béniras. À toi la gloire. Amen.